VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 24 janvier 2017, Yaya Jammeh pourra garder ses 13 voitures de luxe qui seront transportées en Guinée équatoriale. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa pour Bruxelles pour raisons médicales, un départ qui pourrait compliquer les négociations. Au Mali, un casque bleu a été tué lundi dans une attaque au mortier contre un camp d'Agalok. Les rebelles syriens accusent le régime de Bachar al-Assad et l'Iran d'être responsable de l'absence de progrès dans les pourparlers de paix d'Astana où la Russie, la Turquie et l'Iran ont toutefois conclu un accord. Le Sénat américain a confirmé Mike Pompeo au poste de directeur de la CIA et Rex Tillerson devient le nouveau chef de la diplomatie américaine. Nous parlerons bien entendu de la CAN 2017 au Gabon, les matchs du groupe C, RDC Côte d'Ivoire, mais avant tout le journal. Exil doré de Yaya Jammeh en Guinée équatoriale, l'ex-président gambien garde sa collection de 13 voitures de luxe. Elles seront transportées par avion cargo. Eric Manirakidza.
Yaya Jammeh est autorisé à prendre tous ses biens sans crainte d'aucune vérification sur le détail de ses possessions. Un porte-parole du nouveau président Adama Barrow parle d'un accord passé entre les deux parties. Khalifa Sala précise que la décision vise aussi à réduire la possibilité d'éventuelles visites de M. Jammeh en Gambie. Samedi soir, deux Rolls-Royce et une Mercedes-Benz ont été chargés sur un avion cargo tchadien. D'autres véhicules sont en attente de chargement. Un communiqué conjoint de la CDAO, de l'Union africaine et de l'ONU exhorte le nouveau gouvernement de Banjul à s'abstenir de toute représailles contre les proches ou les loyalistes du président déchu. Adama Barrow, qui doit prendre les rênes du pouvoir, séjourne toujours au Sénégal où il a prêté serment. Son retour en Gambie n'est pas encore annoncé.
L'opposant congolais Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa pour Bruxelles pour raisons médicales, alors que son parti négocie avec la majorité soutenant Joseph Kabila. Jacques Aristide.
Un proche de la famille Tshisekedi affirme que l'opposant de 84 ans n'est pas mourant, mais qu'il devait partir pour un contrôle médical à Bruxelles. Cependant, pour un haut cadre de l'UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi, la santé du vieux, comme le surnomme affectueusement ses partisans, s'est brusquement dégradée. Son départ pourrait compliquer les pourparlers pour une sortie pacifique de la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà du terme de son mandat qui a officiellement expiré le 20 décembre dernier. Selon des informations de VOA Afrique, les partis viennent de convenir sur le comité national de suivi de la transition que Tshisekedi doit diriger. Les évêques catholiques ont même mis un bureau à sa disposition. Il sera secondé par 3 vice-présidents et le comité sera constitué de 23 membres, dont 9 de la majorité présidentielle, 6 du Rassemblement et 4 du Front pour le respect de la transition. Voulant couper court à des rumeurs sans préciser les motifs du voyage, l'UDPS avait publié dans la nuit un communiqué affirmant que son chef partirait pour Bruxelles pour un séjour prévu de longue date qui, selon le parti, a été plusieurs fois reporté compte tenu de la situation politique au pays et des enjeux de l'heure, et d'affirmer que le chef du parti ne tardera pas à revenir pour assumer ses responsabilités historiques.
Au Mali, un casque bleu a été tué et 2 autres grièvement blessés lundi dans une attaque au mortier contre leur camp d'Agalok, a annoncé aujourd'hui la MINUSMA. Le texte ne mentionne pas leur nationalité, mais la majorité des troupes à Agalok appartiennent au contingent tchadien. Une femme kamikaze portait un bébé sur son dos lors d'un attentat suicide le 13 janvier dans le nord-est du Nigeria, a annoncé aujourd'hui l'Agence nationale de gestion des urgences. L'une des femmes kamikazes avait un bébé attaché dans le dos, a affirmé le coordonnateur du NEMA dans l'état d'Adamawa, Saad Bello. Des femmes et des jeunes filles sont régulièrement utilisées par Boko Haram pour perpétrer des attentats. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a commencé à Bangui une tournée africaine qui la mènera également en Ouganda, après avoir évoqué en Centrafrique les fragilités de la sous-région et du pays. Madame Lagarde devait s'exprimer devant la presse avec le président Touadéra. La patronne du FMI arrive à Bangui 2 mois après une conférence des donateurs internationaux à Bruxelles qui ont promis 2,2 milliards d'euros pour reconstruire la Centrafrique. Madame Lagarde quittera Bangui mercredi après-midi pour se rendre en Ouganda où elle restera jusqu'à vendredi. L'opposant rwandais en exil, Thomas Nahimana, a été interdit d'entrer au Rwanda alors qu'il devait se rendre à Kigali pour présenter sa candidature à la présidentielle prévue en août. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer à Bruxelles, la compagnie Brussels Airways lui a remis une lettre de l'immigration rwandaise qui demandait à toutes les compagnies desservant Kigali de ne pas le prendre comme passager. L'immigration assure qu'il est bienvenu au Rwanda, mais lui reproche d'avoir demandé un visa en tant que citoyen français alors qu'il était aussi en possession d'un passeport rwandais expiré et de ne pas l'avoir averti de sa double nationalité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en visite à Riyad, a demandé que les négociations de paix sur la Syrie reprennent le plus rapidement possible sous l'égide des Nations Unies. Tatiana Mosso.
Une déclaration faite avant que Mohamed Alouche, le chef de la délégation rebelle à Astana, n'accuse le régime syrien et l'Iran d'être responsable de l'absence de progrès tangibles dans les pourparlers qui se sont tenus hier et aujourd'hui au Kazakhstan. Les parrains des pourparlers d'Astana, la Russie, la Turquie et l'Iran, ont convenu ce mardi de la création d'un mécanisme de mise en œuvre et de surveillance du cessez-le-feu en Syrie, après deux jours de négociations entre rebelles et émissaires de Bachar al-Assad. Ces négociations étaient destinées en principe à servir de base à des pourparlers sous l'égide de l'ONU à Genève le 8 février. La France et l'Arabie saoudite soutiennent les groupes rebelles en Syrie, comme la Turquie, alors que l'Iran et la Russie soutiennent le président Assad. Les rebelles ont également soumis un document qui doit être examiné par les Russes et l'ONU sur la mise en place des mécanismes visant à renforcer le cessez-le-feu selon la même source. Mohamed Alouche a toutefois appelé la Russie à s'engager davantage dans le règlement du conflit syrien.
Le Sénat américain confirme les membres de l'administration Trump. Mike Pompeo prend officiellement la tête de la CIA et Rex Tillerson est le nouvel homme fort de la diplomatie américaine. Salwad Jafari.
Dominé par les Républicains, le Congrès a notamment validé cette nuit la nomination de Mike Pompeo comme nouveau directeur de la CIA. Par 66 voix contre 32. Mike Pence a présidé la cérémonie de sa prise de fonction.
It's my great privilege to welcome Mike Pompeo as the new director of the Central Intelligence Agency.
Une large portion de l'opposition démocrate lui concède sa connaissance des questions de renseignement, notamment la cybersécurité. Le républicain est connu pour ses critiques virulentes de l'administration Obama. Dans la foulée, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain a approuvé hier la nomination de Rex Tillerson à la tête du département d'État. Tous les républicains ont voté oui et tous les démocrates non. C'est désormais à l'ensemble des sénateurs de voter pour finaliser cette nomination à une date qui n'a pas encore été programmée.
Et on connaîtra bientôt le choix de Donald Trump pour occuper le poste vacant à la Cour suprême. Le président des États-Unis a promis de publier ce nom la semaine prochaine. La plus haute instance judiciaire américaine est menacée de blocage depuis le décès en février 2016 du juge conservateur Antonin Scalia, car elle ne fonctionne qu'avec 8 magistrats au lieu de 9, 4 juges conservateurs et 4 progressistes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous. Place au groupe C ce mardi. Aouyem, le champion en titre ivoirien, joue sa qualification face au Maroc. Et les Ivoiriens ont impérativement besoin d'une victoire tout à l'heure. Les deux équipes n'ont pas encore brillé dans cette compétition. Peut-être sur ce dernier match qui débute à 19h temps universel. On retrouve sur place Amine Birouk pour VOA Afrique. Amine, les Lions de l'Atlas ont un léger avantage.
Tout à fait, c'est un match à quitte double entre le tenant du titre et le Maroc. La Côte d'Ivoire qui reste sur deux matchs nuls a l'obligation de l'emporter face à une sélection marocaine retrouvée qui n'a elle besoin que d'un point. Les deux équipes ont leur destin en main. Côté ivoirien, à l'exception de Lamine Koné, Michel Dissouillet devrait bénéficier de tout son groupe ou pouvoir compter sur tout son groupe. Alors que côté marocain, on ne déplore aucune blessure. Sur le plan mental, les Marocains ont un obstacle à franchir, n'ont jamais réussi à passer le premier tour depuis la CAN 2004, alors que les Ivoiriens ont pour habitude de jouer des premiers rôles dans cette compétition. La Côte d'Ivoire, c'est une génération qui s'est gagnée. Côté marocain, c'est le syndrome de l'échec qu'il va falloir dépasser. Hervé Renard est venu avec cet objectif. Pourra-t-il réussir cette prouesse? Côté ivoirien, est-ce que Michel Lussuyer saura transcender ses troupes? Verdict tout à l'heure à 19h GMT. Depuis OIM au Gabon, Amine Birouk pour VO Afrique.
Autre affiche de ce groupe, la République démocratique du Congo, leader avec 4 points, affronte le Togo, dernier avec 1 point. Un nul suffit au Léopard pour se qualifier. On retrouve sur place Thierry Kambundi à Port-Gentil pour Top Congo FM, notre partenaire. Thierry, les Léopards en ballotage favorable sur ce match.
Ah oui, puisqu'il leur suffit d'un nul au minimum ou au mieux d'une victoire pour se qualifier. Les Léopards qui, depuis le début de cette campagne dans le groupe C, chapeaute le groupe, son leader, ils ont 4 points pour l'instant. Mais malgré tout, Flora Ibenge a dit et répété qu'ils doivent absolument chercher à gagner ce match pour éviter tout score piège. Ils doivent chercher à battre cette équipe du Togo pour éviter que derrière, il y ait des complications et des calculs qui pourraient les mettre en ballotage défavorable. On attend voir ce que ça va donner. En tout cas, au moment où je vous parle, je suis au stade de Port-Gentil. Les équipes sont sur place en train d'essayer de travailler, de rendre cette pelouse la plus praticable possible afin que le spectacle n'en souffre pas. On verra bien ce que ça va donner d'ici 19h temps universel. Depuis le stade de Port-Gentil, ici au Gabon, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le verdict a été rendu hier dans le groupe B et il a été sans appel pour les Algériens qui quittent la compétition par la petite porte. Le digne représentant africain au Mondial 2014, armé d'un Mahrez, meilleur joueur africain, n'a pas réussi à renverser la vapeur hier à Franceville. Match nul de partout contre le Sénégal déjà qualifié. Amdinsi a suivi le match hier pour VOA Afrique. Voici son compte-rendu.
L'Algérie s'est contentée de match nul face à une équipe du Sénégal bis sur le score de 2 buts partout, alors que la Tunisie s'est imposée devant le Zimbabwe sur le score de 4 buts à 2. Pourtant, les Verts ont joué leur chance à fond en ouvrant le score à la 10e minute par l'intermédiaire de Slimani, mais le Sénégal a réussi à remettre les pendules à l'heure à la 44e minute grâce à Papkouli Diop. Les deux équipes vont rejoindre les vainqueurs sur ce score d'égalité. À la reprise, les Fennec vont reprendre l'avantage à la 51e sur un autre but signé Slimani qui a réalisé un doublé. Réponse du berger à la bergère avec Moussa Sow qui égalise 2 minutes plus tard, c'est-à-dire la 53e. Le ballon d'or africain Riyad Mahrez et ses partenaires ont tout fait pour forcer le destin sans succès car le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Les Algériens qui faisaient partie des favoris sortent ainsi par la petite porte car ce CAN 2017 restera comme un échec pour les Fennec. Amédine Sy, Franceville, VOA Afrique.
Et demain, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte. Les Black Stars, déjà qualifiés, auront fort à faire face aux Pharaons qui ne sont pas assurés de la qualification. Le Mali est en embuscade face à l'Ouganda et devra absolument l'emporter, comme l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Tonangmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0 but partout, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour l'écart avec 6 points, les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grises ougandaises. Une telle victoire améliorerait leur chance d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les Aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les Pharaons. Un match où les Égyptiens mettront toutes leurs forces dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, les Grises ougandaises déjà éliminées, mais qui aimeraient rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les Aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017. Il ne leur reste plus qu'à jouer leur meilleur football et prier pour un miracle. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
C'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Arzouma Compaoré.
Le marché des couches et lingettes se porte bien. C'est du moins ce que le chiffre d'affaires de 115 millions d'euros du leader algérien Faderco laisse penser. Leader algérien de l'industrie papetière, spécialisé dans le domaine de l'industrie corporelle, la société a été créée en 1986 et s'est spécialisée dans la fabrication des cotons-tiges. La compagnie emploie aujourd'hui plus de 1700 salariés. Le marché domestique de 40 millions de consommateurs est devenu trop étroit pour la société algéroise qui a ouvert en décembre 2015 un deuxième site de transformation à Sétif et s'apprête à en inaugurer un troisième. Pour le directeur général Amor Abès, la croissance actuelle de la société les oblige à chercher des marchés extérieurs. Le groupe exporte d'ores et déjà ses produits finis dans 6 pays d'Afrique, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, la Libye et la Côte d'Ivoire. Face à ses grands concurrents chinois, mais surtout turcs, les dirigeants de Faderco jouent la carte de la proximité et ses faibles coûts de production, d'une main-d'œuvre et d'une énergie étant bon marché. Au Maroc, grande déception pour le projet touristique Plan Azur. Sur les 58 500 lits touristiques attendus dans les stations balnéaires de Saïdia, Larache, Mazagan, Mogador, Tagazout et Plage Blanche, seuls 1 570 lits ont été réalisés, soit 2,7% de l'objectif prévu. La SMIT, la société gestionnaire du programme, a dû consentir au total plus de 1,5 milliard de dirhams pour ce plan stratégique, encore à l'état de mirage.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. République démocratique du Congo, réaction des organisations de défense des droits humains après la seconde expulsion de la chercheuse principale de Human Rights Watch. Ida Sawyer n'est pas entrée frauduleusement dans le pays, contrairement à ce que déclare le gouvernement, disent ces organisations, dénonçant le pouvoir de vouloir empêcher aux ONG de faire leur travail. Idi Isango a joint à Kinshasa le coordonnateur d'une plateforme regroupant une trentaine d'organisations de la société civile, Georges Kapiamba.
Nous avons réagi en condamnant avec fermeté cette deuxième expulsion inacceptable de Mme Ndiba. Elle a payé tous les frais, donc il n'y avait aucune raison qui pouvait justifier l'annulation de son visa si par une raison purement politique et qui viserait à entraver à l'exercice de ses activités de militante des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Donc, nous exigeons des autorités congolaises de revenir et rapporter cette décision pour lui permettre de revenir en RDC et travailler librement.
A-t-elle reçu préalablement un avis du gouvernement pour aller chercher les visas? Un avis pour dire qu'elle était à présent autorisée?
Elle a suivi la procédure ordinaire et légale. En la matière, elle s'est adressée auprès de l'ambassade, la RDC, c'est-à-dire à Bruxelles. Il lui avait demandé toute une batterie de pièces. Il n'y avait pas d'autre chose à faire ou d'autres conditions à remplir en dehors de conditions légales.
Mais le gouvernement dit qu'elle est entrée frauduleusement dans le pays. Les porte-parole du gouvernement, bien sûr.
Non, c'est une fausse déclaration parce que nous avons un autre projet sur tous les documents. Donc, ce qui est fait aujourd'hui par les autorités est inacceptable. Il s'agit tout simplement d'une atteinte portée au droit de Mme Ida et nous exigeons qu'elle soit rétablie dans ce droit.
Est-ce que la décision du gouvernement, au moment où on parle des décrispations, augure de la bonne volonté ou de bonne disposition du pouvoir en place?
Non, pas du tout. Démontre que le gouvernement entend s'attaquer de manière systématique aux militants des droits de l'homme, aux associations des droits de l'homme.
Georges Kapiamba est le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le président camerounais Paul Biya a signé un décret portant création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'une des missions de cette commission est d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics et les organismes recevant des subventions de l'État. John Lindon a joint à Yaoundé le docteur Olivier Billet, président de l'Union pour la fraternité et la prospérité.
La réalité est que la situation qui prévaut au Cameroun est une situation d'impasse critique. C'est-à-dire que le régime est aujourd'hui confronté à une réalité qu'il ne sait plus gérer. Et comme d'habitude, la tradition chez nous ici, c'est de créer des commissions, de créer des comités, etc., lorsqu'on n'a pas de solution politique crédible à une difficulté. La commission créée par décret du président de la République est en réalité une fuite en avant face à une situation qui impose un autre type de solution.
Qu'est-ce qui explique le fait que jusqu'ici, le Cameroun, qui sur le papier est un pays bilingue, n'applique pas ce bilinguisme à tous les niveaux ?
Écoutez, le problème qui travaille le pays, si vous voulez, n'est pas tant que ça une question d'application du bilinguisme. C'est vrai que dans certaines instances publiques, dans certaines structures institutionnelles publiques, l'application du bilinguisme n'est pas réalisée telle que le prescrit la Constitution. L'anglais a plutôt jusqu'ici été considéré comme une seconde langue, ce qui est à regretter.
Est-ce que depuis l'annonce de la création de cette commission, la situation s'est calmée dans les deux provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest?
Il n'y a pas beaucoup de chances que la situation se calme. En réalité, le calme viendra que lorsqu'au Cameroun, je l'ai dit dans une tribune, la partie anglophone du pays s'apaisera à la faveur de la mise en œuvre de choix politiques qui seront basés sur la restauration de la vérité historique et de la justice, mais aussi à la faveur de choix et d'options politiques qui mettront en avant la quête de la modernité politico-institutionnelle. Ça n'est pas du tout le cas, c'est plutôt une logique d'escalade qui va dans le sens de l'arrestation des leaders syndicaux, dans le sens de l'arrestation même de leaders politiques tels que Paul Aya Abiné. Les principaux interlocuteurs du gouvernement dans cette crise sont aujourd'hui entre les mains du secrétariat d'État à la Défense. Toutes ces personnes anglophones sont détenues de manière tout à fait inacceptable. Je pense qu'il est temps peut-être que des entités extérieures interviennent dans ce conflit qui commence à véritablement nous inquiéter.
C'était le docteur Olivier Billet, président de l'Union pour la fraternité et la prospérité au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Niger, les travailleurs des collectivités territoriales de Niamey ont entamé hier une grève de 5 jours. Ils entendent par ce débrayage exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Le mouvement a commencé par un sit-in à l'hôtel de ville de Niamey. Voici un reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les grévistes sont en majorité des auxiliaires, comme Moussa Adamou, manœuvre au cimetière chrétien de Niamey.
En temps normal, on fait les fosses, on fait l'enterrement, mais c'est nous qui faisons tout. On ne demande rien. Mais maintenant, là, comme nous, on a réservé de nous payer, nous, on se retire. On ne va rien faire là-bas. Tout celui qui veut enterrer sa personne, c'est à lui maintenant de faire tout. Catégoriquement, on se retire.
S'ils ne sont pas payés à la fin janvier, ils passeront ainsi leur 7e mois sans salaire. Les travailleurs des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur 1e mouvement de grève. Ali Gatti est le coordonnateur des 5 syndicats des travailleurs des municipalités de la capitale.
Le problème, là, ils ont commencé depuis en 2015. Il faut partir en grève pour percer un mois de salaire. 2-3 mois d'arriéré, un mois de salaire. Mais maintenant, depuis en juin qu'ils nous ont donné nos salaires, jusqu'à présent, ils nous ont rien donné. Et le pire des choses, ils nous appellent même pas pour négocier, pour chercher une issue.
Alors, ce matin, on voit que même l'entrée principale de la mairie, vous l'avez bloquée. Qu'est-ce que cela signifie?
Ça signifie que tout le monde en a marre maintenant. Au début, moi, les gens ne venaient pas, les gens venaient en contre-route. Mais maintenant, tout le monde en a marre. Même les agents qui ne venaient pas, maintenant, tout le monde, ils sont décidés pour venir. Tout ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Tout le monde est prêt. Parce que pour la mort, on n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. À la maison, on est des femmes. Devant nos femmes, nous aussi, nous sommes des femmes parce qu'un responsable d'une maison qui ne donne pas les frais de Kondamali aussi, il devient une femme.
Puisque leur autorité hiérarchique directe ne semble pas avoir de solution, certains sollicitent une implication à un niveau beaucoup plus élevé.
On voulait rappeler au président de la République, Mohamed Issoufou, qu'il pense à nous. Pitié, 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 pitié. 7 mois sans salaire, c'est pas 7 jours.
Cette situation-là est très difficile, est très très difficile. Si vraiment le président peut intervenir dans cette histoire-là, il n'a qu'à intervenir parce que on ne peut pas vivre et travailler pour l'État pendant 7 mois sans avoir le salaire.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Washington Forum, ce jeudi, Donald Trump, dès son entrée à la Maison-Blanche, s'est attaqué à la loi sur l'assurance maladie Obamacare et a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Depuis, s'en sont suivis plusieurs décrets présidentiels. Un début de mandat marqué aussi par les différentes manifestations anti-Trump massives aux États-Unis et à travers le monde. Alors, jusqu'où ira Donald Trump dans la rupture? Quelles conséquences et quelle est l'influence de ces manifestations? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé une nouvelle tournée africaine par la Tanzanie. Au menu de sa visite, les relations commerciales et les activités du prédicateur Fethullah Gulen qu'Ankara accuse d'être derrière la tentative de coup d'État de l'an dernier. Les investissements turcs sur le continent se situent autour de 20 milliards de dollars en 2015 contre 5 milliards en 2004. L'analyste politique malien Madou Diallo a expliqué à Abdourahman Dia pourquoi la Turquie s'intéresse à l'Afrique.
Depuis 2005, l'année au cours de laquelle le gouvernement turc a décrété 2005 l'année de l'Afrique, on a compris véritablement que la diplomatie turque a mis l'Afrique au centre de ses intérêts. C'est d'abord une diplomatie avant tout économique, parce qu'il s'agit de recherche de nouveaux marchés. Il s'agit aussi d'ouvrir de nouvelles liaisons pour Turkish Airlines. Et également, la Turquie a adhéré à des organisations internationales économiques qui s'intéressent à l'Afrique, notamment par exemple à la BAD. Mais également, il s'agit aussi sur le plan culturel, parce que vous savez sans doute que la Turquie incarne aujourd'hui un modèle de laïcité, véritablement qu'il faudrait aussi faire accepter et découvrir au niveau international. Sans oublier aussi le fait que l'objectif, c'est d'endiguer aussi ce qu'on peut appeler le mouvement véritablement Gulen, que le pouvoir turc véritablement veut limiter dans son expansion.
Est-ce que ces pays africains-là ne peuvent pas à la fois entretenir de bons rapports commerciaux avec la Turquie sans forcément céder à cette pression?
Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui vont chercher à attirer aussi les capitaux turcs, l'expertise de la Turquie. Véritablement, c'est également un jeu qui va s'instaurer à ce niveau. Je pense que ça ne va pas être une pression directe, mais ça va être beaucoup plus, si vous voulez, des encouragements économiques qui vont certainement décider la plupart des États à accepter cette position de la Turquie.
Le président Erdogan entame cette tournée, cette fois-ci en Afrique de l'Est. Pour vous, quelle est la région qui pourrait bénéficier le plus des rapports commerciaux entre la Turquie et l'Afrique?
À mon avis, l'Afrique va beaucoup bénéficier parce qu'il faudrait reconnaître que tout ce qui est produit venant de la Turquie, il y a la qualité, mais aussi véritablement c'est abordable par rapport à finalement ce qui vient des pays occidentaux. C'est aussi gagnant-gagnant parce qu'en réalité, la Turquie aussi a besoin de faire des ouvertures à ses entreprises et aussi à la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines.
On écoutait l'analyste politique malien Madou Diallo. Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma, à la console Najouane Calais, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous et à bientôt.